Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, nous reprenons nos méditations sur la vie de Joseph, un personnage important dans l'Ancien Testament qui apparaît dans le livre de la Genèse.
Pour nous accompagner dans nos réflexions, Flavien, qui est ancien d'une église située dans le sud de la France, vient nous retrouver.
Mais d'abord, Yann va introduire le thème d'aujourd'hui.
Avez-vous déjà entendu cette affirmation? Les actions sont plus parlantes que les paroles. Si nous prétendons être disciples de Jésus, alors la façon dont nous pensons, parlons ou agissons devrait se voir dans nos vies. Revenons à Joseph. Son attitude a-t-elle changé après qu'il eut accédé à son poste d'autorité sur l'Égypte? Demeure-t-il fidèle à Dieu ou se détourne-t-il de lui? Flavien va nous instruire à ce sujet.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Tout d'abord, nous devons remarquer la réponse immédiate de Joseph. Par deux fois, il nous est rapporté que Joseph sortit de la présence de Pharaon pour voyager dans tout le pays d'Égypte.
Et que fit-il ?
Mais Joseph ne perdit pas de temps pour commencer son travail. Il commença par faire une inspection approfondie du pays pour se faire une idée de sa superficie et des possibilités de culture et de rendement. C'était aussi pour pouvoir établir quelles étaient les facilités de stockage dans chaque ville. Ces informations lui étaient nécessaires pour mettre au point son plan d'action et établir la loi par laquelle un cinquième des récoltes devait être prélevé et emmagasiné d'une façon sûre pendant les 7 années de prospérité. De plus, il se mit à la tâche avec dynamisme, avec une droiture et une constance admirables. La grâce de Dieu était avec lui. Or, lorsque le Seigneur nous confie une tâche, il nous donne aussi la force de la mener à bien.
Ceci est fort encourageant.
Ah, vraiment, oui. La Bible nous enseigne de nous montrer zélés et intègres dans notre travail de tous les jours. Paul, d'ailleurs, en Éphésiens, chapitre 6, versets 5 à 8, a donné des instructions aux serviteurs de son époque à ce sujet. Mais ces exhortations peuvent s'adresser à nous, aujourd'hui. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. L'attitude de Joseph démontrait non seulement qu'il était un homme sage et consciencieux, mais aussi qu'il ressentait l'urgence en face de milliers de vies concernées, même si la plupart d'entre elles n'avaient aucune idée de ce qui était en train de se passer.
Joseph était véritablement un homme bon et réfléchi.
Absolument. Or, Joseph nous met aussi devant un autre défi. Est-ce que nous estimons que le besoin de répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le monde est urgent? Nous vivons dans un monde où la population se compte maintenant par milliards. La plus grande majorité de ces gens ne savent pas qu'ils se trouvent confrontés à un danger encore plus grand que cette année de famine. Un jour, ils vont devoir passer un jugement devant Dieu, avec des conséquences éternelles.
Pouvez-vous vous expliquer ?
Au jour du jugement, ils entendront ces paroles terribles que le Seigneur a pris la peine de répéter plusieurs fois dans le Nouveau Testament. « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. »
Entendre ces paroles du Seigneur sera terrible.
Ah oui, et la seule chose que quelqu'un peut faire pour éviter cette fin terrible, c'est de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, en croyant à ce qu'il a accompli par sa mort sur la croix, pour obtenir le pardon de nos péchés. Voilà pourquoi il est urgent que nous fassions part de tous ces faits aux autres et que nous partagions la solution de Dieu pour remédier au péché. C'est seulement par le sang de Jésus-Christ que nous pouvons être purifiés de nos péchés. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, nous commande de partager cette bonne nouvelle. Or, nous sommes si lents parfois à nous employer à cette tâche. Combien d'excuses n'avons-nous pas pour ne pas la remplir ? Or, Joseph nous reprend par son témoignage, parce que lui, il s'adonne à la tâche au moment même où elle lui fut confiée.
Flavien, Joseph s'est-il toujours montré aussi zélé dans son travail au fil des années ?
Oui, absolument. Tout au long des années d'abondance qui suivirent, Joseph s'adonna à son travail avec zèle pour recueillir et emmagasiner des récoltes en vue de la famine à venir. Il nous est dit qu'il prit soin de l'organisation des centres de stockage dans les villes, ce qui montre une fois encore sa sagesse, car c'est dans les villes que se trouvent les plus grandes concentrations de population. Pour Joseph, il est plus facile de voyager pour rejoindre une ville que d'organiser un système de distribution pour atteindre des villages éloignés.
La sagesse de Joseph est absolument étonnante.
Oui, par ailleurs, il fit aussi la répartition des stocks d'une manière équitable. Il rassembla autour de chaque ville le cinquième des récoltes moissonnées afin de les stocker dans la ville en question et d'éviter ainsi toute inégalité ou tout favoritisme.
Donc Joseph agit aussi avec beaucoup d'intégrité.
Il est vrai que l'enjeu est de taille. Des milliers de vies dépendent de ce que Joseph fait. Il est triste de voir qu'aujourd'hui, certains de ceux qui occupent des positions élevées sont corrompus et abusent de leur pouvoir et de la confiance qui est placée en eux.
Malheureusement, ceci est une vérité dans bien des pays aujourd'hui.
Oui, tous ces individus devraient se rappeler qu'un jour, ils devront rendre des comptes à Dieu pour leur voie corrompue. Et à ce moment-là, ils ne pourront pas échapper à sa justice. Il y a un dicton qui dit « Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt complètement. » Mais ce dicton ne s'applique pas à Joseph. Joseph s'affirme, au contraire, comme témoin de la fidélité de Dieu.
Et comment le travail de Joseph a-t-il progressé ?
Eh bien, le Seigneur bénit richement le pays d'Égypte pendant toutes ces années d'abondance. Nous lisons que le produit des récoltes était considérable, ce qui prouve que la parole de Dieu à Pharaon, au travers de ses rêves, s'accomplissait à la lettre. Cela nous encourage à voir que tout ce que Dieu dit dans sa parole est vrai. Jésus lui-même déclara « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. »
L'exemple de Joseph doit nous encourager à rester fidèles à Dieu et être prompt à parler de lui aux autres. Que le Seigneur nous aide dans cette tâche.
Passons tout de suite à notre méditation biblique. Nous allons réfléchir aux paroles de Jésus prononcées lors de sa conversation avec un homme nommé Nicodème.
Écoutons dans un premier temps l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 14 à 17. Jésus s'adresse à Nicodème et dit
« Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. »
La dernière fois, Jean-Marc nous a expliqué que si Jésus a évoqué cet incident ayant eu lieu dans le désert à l'époque de Moïse, c'était pour nous aider à comprendre le sens et l'importance de sa propre mission. Le serpent de bronze était le moyen donné par l'Éternel permettant aux Juifs d'échapper aux conséquences de leur rébellion et de leur désobéissance à Dieu. Ainsi, de la même manière, Jésus devait-il être élevé, et toute personne qui placerait sa foi en lui échapperait, comme il affirme, à la perdition pour bénéficier de la vie éternelle. Jean-Marc, aujourd'hui, je voudrais que vous éclaircissiez trois points. En premier lieu, comment Jésus allait-il être élevé? Ensuite, pouvez-vous définir les mots « perdition » et « la vie éternelle » ?
Lorsque Jésus dit qu'il doit être élevé, il fait allusion sans aucun doute à la croix. Jésus connaissait d'avance la fin qui allait être la sienne, et il affirme qu'il se donne délibérément à une telle fin, car il sait qu'elle représente le seul moyen pour obtenir le salut de tous les hommes. La crucifixion, pratiquée par les Romains, était une peine extrêmement cruelle. Ils clouaient les condamnés sur une croix de bois. Ensuite, cette croix était mise en position verticale, et le condamné se trouvait ainsi suspendu, élevé au-dessus d'une foule moqueuse et méprisante. Suspendu ainsi dans cette position douloureuse, le condamné mettait des heures avant de s'épuiser et de mourir asphyxié. La Bible affirme que Jésus a accepté d'endurer une telle peine par amour pour tous les hommes, toutes les femmes, car en faisant ainsi, il subissait le châtiment de l'Éternel à la place de tous ceux et celles qui mettraient leur foi en lui. À cause de sa nature pécheresse, l'humanité tout entière est destinée à la perdition, car nul ne parvient à vivre selon les desseins de Dieu. Le mot perdition vient du mot perdu. Nous avons perdu notre relation avec Dieu, nous sommes exclus de sa présence, aujourd'hui et pour l'éternité, à moins de recevoir par la foi le salut que Jésus nous procure sur la croix. La vie éternelle, comme le déclare l'évangile de Jean, consiste à connaître le seul Dieu vrai et vivant. Elle consiste à retrouver ce que nous avons perdu. Elle consiste à renouer cette relation merveilleuse avec Dieu, non seulement lors de notre cheminement terrestre, mais pour l'éternité. La perdition est une condition effrayante et misérable. Peut-être aujourd'hui ne le réalisez-vous pas, mais dans l'éternité, lorsque vous serez privé de tout ce que Dieu apporte de bon, et principalement de sa présence, alors être séparé de lui vous sera insupportable. Mais fort heureusement, Jésus-Christ a pourvu au moyen d'échapper à ce destin. Dieu est infiniment bon. Et aujourd'hui, vous pouvez venir à lui en acceptant l'acte d'amour accompli par Jésus sur la croix afin de régler le problème de notre péché.
Merci Jean-Marc pour ces exhortations si importantes. Nous espérons vous retrouver lors de notre prochaine émission. En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.